France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Depuis cet été, depuis la mort du maire de Signes, quelque chose a changé. Les incivilités, les pneus crevés et même les attaques. Les maires avaient fini par vivre avec, à garder pour eux-mêmes en tout cas, ce traumatisme, le traumatisme que cela représente. De toute façon, qui détenteur d'une autorité pour les écouter? Finalement, pas grand monde. Depuis la mort de Jean-Mathieu Michel, donc à Signes, ceux qui ont été agressés aussi ont levé la main et ont réalisé que ces phénomènes étaient plutôt réguliers. Les maires dans les petites communes ont souvent parlé de leur engagement, de leur attachement à la vraie proximité qui est l'essence de leur fonction de maire, mais ils ont souvent aussi parlé de leur charge de travail, de la perte de sens, d'un statut qui ne protège plus, et donc parfois aussi de démission, manque de moyens, manque de reconnaissance, perte de respect d'autorité aussi. Le maire, c'est l'État, et c'est donc lui qui prend les coups. Pour l'État, le malaise de la France des territoires, dont on a beaucoup parlé pendant la crise des Gilets jaunes, il touche au fond les maires aussi. 10 d'entre eux ont rencontré leur ministre aujourd'hui. Je suis maire, respectez-moi, c'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Simon, bonsoir et soyez le bienvenu, c'est vous qui ouvrez le bal ce soir.
Bonsoir, merci de me recevoir. Je voulais intervenir par rapport à ce sujet. Je suis directeur de cabinet dans une commune de 14 000 habitants en Vendée. Donc je suis témoin quand même au quotidien de l'agenda d'un maire et des différentes personnes qu'il rencontre. Donc le maire, tout le monde le sait, sont les premiers interlocuteurs des administrés, notamment surtout dans les communes rurales. Et sans faire de pathos, c'est vrai que c'est un métier passionnant, voire un sacerdoce aussi bien pour le maire que pour les différents élus des différentes communes. Mais souvent, les citoyens ne connaissent pas réellement les fonctions du maire qui, s'il est mandaté pour 6 ans, travaille 7 jours sur 7 et est toujours sollicité. Mais les gens oublient que le maire n'a pas forcément les pleins pouvoirs dans une commune. Aussi bien l'État, la région, le département, les com-com ont différentes missions qui leur incombent. Et dans les communes rurales, souvent le maire est seul, voire accompagné d'une équipe d'autres personnes qu'ils soient élus, mais ils travaillent, ils ont un autre métier à côté, et ils ne peuvent pas être partout tout le temps. Et les citoyens sont exigeants, ils ont raison de l'être, mais souvent ne sont pas forcément patients et s'en prennent souvent, malheureusement, au maire. Et les personnes ont souvent tendance à dire ce qui ne va pas, mais pas forcément ce qui fonctionne. Et bon, il en va de même pour l'image de certains fonctionnaires.
Ah, les trains qui n'arrivent pas à l'heure, Simon.
C'est exactement. quand il y a encore des gares.
Oui, comme vous dites.
En revanche, les communes, c'est tout le monde le sait, ont de moins en moins de moyens. Alors, il y a les dotations de l'État d'une part, mais il y a aussi des mesures d'action. Je peux prendre encore une minute.
Allez-y.
Je vais prendre un exemple simple. Il y a l'épisode des Gilets jaunes cette année qui a beaucoup marqué l'ensemble des communes en France. Si l'État va annoncer des mesures, la traduction de ces mesures et de ces faits, c'est ni les députés ni les préfectures qui vont les mettre en place, mais les personnes attendent du maire des réponses. Le maire qui n'a rien demandé à ça, la responsabilité d'organiser des réunions publiques, de recevoir des représentants ou des choses comme ça, c'est des actions à l'échelle de la ville qui doivent être traduites très rapidement et les gens ont besoin de réactivité. C'est pas forcément facile. Après, faut pas oublier que la proximité reste un engagement positif au quotidien, et heureusement. Mais certains maires souffrent et certains sondages ou études ont dit que 50% de certains maires ne veulent pas se représenter. On peut les comprendre parce que beaucoup se font quand même pas mal crier dessus, revouer. Alors, c'est l'avantage de la proximité qui est un inconvénient parfois pour des maires. Il faut pas oublier que le maire est une personne comme tout le monde. C'est un citoyen lambda aussi. Il a la charge de sa commune. En revanche, c'est pas un super-héros et que il fait ce qu'il peut.
Voilà, et il n'a pas de cap. Merci beaucoup. Exactement. Simon, pour cette entrée en matière qui nous permet de balayer beaucoup de choses qu'on évoquera ensemble jusqu'à 20h pour en parler ensemble autour de cette table. Dominique Chapuis, là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire de Rozoy. C'est dans l'Yonne.
Oui.
1114 habitants.
Voilà
comme ça pour situer à quoi ça ressemble. Et bonsoir Jean-Marc Bergia.
Bonsoir.
Vous êtes maire de Sobins, c'est en Haute-Garonne, et chez vous il y a 2300 habitants.
C'est ça.
Et je vais préciser aussi que vous étiez chez votre ministre, vous, tout à l'heure, vous faites partie de ces maires qui ont été agressés. Vous nous raconterez peut-être de tout à l'heure dans quelles conditions, mais du coup vous avez peut-être une vision de votre métier, de la suite, enfin de votre métier non d'ailleurs, de votre fonction de maire, joli lapsus au fond, on en parlera aussi, qui peut faire changer les choses. D'ailleurs, tiens, commençons là-dessus. Dominique Chapuis, vous êtes en pré-retraite, autant que je sache, mais évidemment, vous aviez un métier. À partir de combien d'habitants dans une ville on considère que c'est un métier et que donc on en vit et on peut lâcher son boulot à côté?
Alors là, c'est une question auquel j'ai pas réfléchi.
Chez vos collègues, à quel moment ça commence?
Après, ça dépend aussi effectivement de ce qu'on va mettre en place dans le cadre de la loi proximité pour permettre aux élus de prendre des heures, au moins 30-40% de son temps s'il est actif. S'ils sont actifs, mais je crois que c'est comme va le dire mon collègue, c'est un sacerdoce. Oui, c'est ça, au moins 10 000, quoi qu'il en soit. Mais après, on ne compte pas les heures de nuit, les week-ends.
C'est là que j'allais venir, parce que dans la question de Simon, il y a les remarques de Simon, il y a ce côté très sacerdoce. Effectivement, ça veut dire quoi, Jean-Marc Bergia, même quand on est dans une ville de 2300 habitants qui, à l'échelle de certaines autres, peut paraître être une petite ville. Mais pour vous, ça veut dire quoi? Votre métier, c'est cadre infirmier. Voilà. Ça veut dire quoi en termes d'heures, en fait?
Ça veut dire beaucoup d'heures. Ça veut dire aménager un agenda qui est déjà bien rempli avec une fonction, enfin, un métier, une profession qui prend pas mal de temps déjà à l'hôpital. Donc après, ben c'est le soir, c'est les week-ends, c'est la nuit, parce qu'on est aussi de permanence et on peut avoir des interventions effectuées la nuit, que ce soit pour une maison qui brûle, pour l'école, l'alarme de l'école qui se déclenche. Voilà, c'est tous ces petites choses, mais qui se cumulent, qui prennent du temps et qui...
C'est intéressant parce que c'est aussi ce que disait Simon. En fait, vous servez à tout, mais les gens ne savent pas très bien que vous servez non plus. C'est-à-dire qu'en gros, vous servez à tout. Il dit qu'on connaît pas les fonctions des maires, et c'est vrai en fait. On sait pas exactement quel est votre périmètre.
Alors dans le cadre des grands débats, moi, effectivement, les questions sont posées souvent parce que j'en ai organisé plusieurs. Et en fait, les gens sont demandeurs de connaître notre fonction, et d'abord parce qu'il y a des gens que ça intéresse, hein, qui souhaiteraient aussi s'engager ou dans la vie associative ou dans la vie municipale, et tant mieux, hein, parce que avec tous les soucis, parce qu'on parle souvent du côté négatif de notre rôle, mais il y a bien évidemment plein d'autres choses intéressantes, notamment toute cette concertation avec les gens. Et quand on explique aux gens, ils comprennent. Hein, ce qui a compliqué les choses, c'est toute cette superposition de communautés de communes, agglomérations, sur les territoires, le département, la région, l'Europe. Enfin, les gens commencent à être un petit peu paumés sur les compétences. En fait, c'est surtout ce qui pose souci et qu'il faut qu'on clarifie et que l'État nous aide et nous accompagne dans cette démarche. Mais surtout, reconnaissent notre rôle parce que nous sommes les derniers.
Alors ils ont promis, effectivement, d'après ce que je crois comprendre, qu'on allait reclarifier tout ça et surtout redonner du pouvoir au fond. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous redonne du pouvoir? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été perdu dans ces intercommunalités qui vous ont au fond siphonné d'un certain nombre de choses qui étaient de vos prérogatives?
Ben, au niveau pouvoir, je pense qu'on est quand même un petit peu dépossédé en termes de petites communes d'un certain pouvoir. On a une représentation par exemple sur une communauté d'agglo ou une communauté de communes, notre poids démographique fait que on a une toute petite représentation dans les agglos. En fait, ce sont les villes-centres ou les villes qui ont une démographie importante sur les agglos qui auront tous les pouvoirs quelque part, et ça peut être une minorité de communes sur une ensemble d'un agglo déjà. Donc c'est déjà très compliqué à ce niveau-là, sur quelque chose qui est supra à la commune, donc ça devient compliqué. Ensuite, localement, effectivement, on a des pouvoirs théoriques, mais il nous manque un petit peu la capacité de pouvoir les mettre en œuvre sur le terrain.
Sur quoi, par exemple, très concrètement, s'il y a une chose dans un vrai quotidien que vous souhaiteriez pouvoir, sur laquelle vous souhaiteriez être décisionnaire, ce serait quoi?
Ben déjà, dans le cadre de nos pouvoirs de police, un certain nombre de communes, et on l'a encore échangé cet après-midi avec le ministre, ne sont pas en capacité, par exemple, de pouvoir donner des amendes de police parce qu'il y a un dépôt sauvage, parce qu'il y a un stationnement qui bloque l'accès pour des personnes handicapées, etc. Donc il y a des possibilités que moi j'ai mis en œuvre sur ma commune avec un logiciel de verbalisation électronique, mais tout le monde n'en est pas doté, tout le monde ne le connaît pas, donc il y a une méconnaissance des outils que met l'État déjà à disposition des communes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est aussi être suivi de façon très proche et en interaction par les services de la préfecture, par les services de gendarmerie également, même si on a d'excellents rapports, je pense qu'on l'a échangé. Mais c'est cette nécessité d'interaction avec les services et pouvoir aller jusqu'au bout des démarches. Parce qu'à l'heure actuelle, on est trop souvent délaissé, on ne peut pas aller au bout, des affaires sont classées, etc. Donc,
cette décision de police, Dominique Chapuis, parce que ça fait effectivement partie des sujets dont vous avez discuté cet après-midi et qui reviendront réellement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Vous parlez des décharges tout à l'heure, c'est bien ce qui avait déclenché les choses avec le maire de Signes cet été. Verbaliser, ça veut dire, est-ce que ça vous aiderait réellement? Ou est-ce que au fond, le risque, c'est pas que vous soyez considéré comme la police, au fond, aux yeux de certains, et que votre rôle soit dévoyé?
Ben, nous sommes de fait OPJ, donc officier de police judiciaire, puisque voilà, en tant que maire et maire adjoint. Mais c'est vrai que si on pouvait rapidement, comme tu viens de dire, faire un PV, ça permettrait d'abord de ne pas engorger les services de police qui le sont déjà beaucoup, et puis d'attendre des mois et des mois pour qu'il y ait une sanction. Parce que le problème souvent de ce genre d'incivilité, c'est le manque de sanctions immédiates. Il faut une réponse immédiate. On échangeait tous les deux tout à l'heure aussi sur des jeunes gens qui font les imbéciles sur un bâtiment qui dégrade. Des fois c'est pas très grave, ou qui arrache des fleurs.
Non, mais c'est le vrai quotidien, ça.
C'est le vrai quotidien pour nous. Il faut qu'on puisse répondre rapidement à cela. D'abord pour pas que le gamin ou l'adulte ou quel qu'il soit puisse penser qu'il pourra faire plus la prochaine fois, parce que ça monte très vite. Il faut qu'on puisse avoir des réponses rapides, et effectivement ce logiciel, moi je le connaissais pas, alors que on a échangé
entre vous, les amis, je suis contente de servir à ça.
C'est parfait. Mais c'est vrai que ces choses-là permettraient de répondre rapidement à des petits faits de délinquance qui éviteraient d'encombrer.
Et autant que si le jeune homme en question qui joue sur un immeuble en construction tombe, ce sera de votre faute en revanche.
En plus. Mais quand vous arrachez des fleurs, c'est ce qu'on se disait, vous arrachez des fleurs, l'idéal pour nous, c'est que la personne qui a fait ça puisse passer une journée avec les employés municipaux et aller replanter. Bon, et pour ça, il faut nous accompagner dans cette démarche.
Avec des démarches qui soient simplifiées.
Simplifié.
Parce que le problème, c'est que on simplifie les normes, mais on augmente la complexité des démarches. Et ça, c'est difficile à vivre sur le terrain.
Bernard, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne, Bernard.
Je vous en prie.
Allez-y.
Eh bien, écoutez, d'une part, je trouve que le maire ne devrait pas être tout seul. J'ai fait suffisamment d'athlétisme pour les sports individuels, mais je suis plus favorable aux sports d'équipe. Et pour moi, le conseil municipal doit être le soutien absolu du maire. Sinon, le maire, je lui conseille de démissionner. Voilà.
C'est un peu radical, Bernard. Mais néanmoins, mais en même temps, la question vaut. Merci beaucoup, Jean-Marc Bergia. On voit bien à quoi ça sert un conseil municipal pendant les délibérations, pendant les réunions que vous pouvez avoir dans la commune. Mais on a l'impression que au moment où on a besoin de passer un coup de fil au maire, vous pouvez en avoir plein des adjoints, ce sera toujours vous qu'on appellera en fait.
C'est souvent le cas, parce que la référence c'est le maire. Après, c'est vrai que dans le quotidien, moi j'ai des adjoints qui sont là aussi souvent que moi, et c'est pas peu dire, des délégués aussi, et c'est vrai que le conseil municipal, il a toute sa place, et il y a un travail de fond qui est assez énorme. Les adjoints aussi ont un pouvoir de police, au titre d'officier de police judiciaire, qu'ils mettent en œuvre sur le terrain, et effectivement, monsieur a parfaitement raison, si on ne compte que sur le maire sans le conseil municipal, il vaut mieux démissionner. Je suis parfaitement d'accord.
Dominique Chapuis, est-ce que vous vous sentez seul parfois, ou vous avez l'impression que votre conseil municipal est là? Peut-être qu'ils n'ont pas le 06 des conseillers municipaux, vos administrés, en fait.
Oui, effectivement, les gens préfèrent avoir affaire au maire, parce qu'ils ont l'impression que ça... que la solution, la baguette magique, c'est le maire, mais bien évidemment, quand je ne suis pas disponible et quand mes élus sont de permanence ou toujours en équipe, on travaille en équipe. Enfin, sans équipe, comme vient de le dire monsieur, c'est pas possible. D'abord, on ne tiendrait pas, on ne pourrait pas. Sur la durée, on ne tiendrait pas si on n'avait pas notre équipe du conseil municipal autour.
Je reviens à ce que disait notre premier auditeur Simon tout à l'heure, parce que je l'ai lève sous les yeux, il parlait de patience. En fait, les gens ont perdu patience. Ça, c'est pas vous, c'est pas nous, c'est le signe des temps aussi. Mais les gens ont perdu patience et peut-être qu'ils ont perdu, vous allez nous le dire, on a perdu en intérêt pour les problématiques collectives, en fait. On est beaucoup plus tourné finalement vers ça, c'est mon passage clouté. Il y a un type qui est sur mon passage, donc j'appelle le maire. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez depuis quelques années, ça, ou pas?
Ah oui, 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 ça, clairement, oui. Mais cette situation, elle est valable pour nos administrés, mais aussi pour les gens que nous avons en face de nous, ou dans les administrations, ou quels que soient les individus. En fait, c'est un phénomène de société globale. Hein. Bon, il m'arrive des fois d'avoir des rapports difficiles avec certains administrés, mais les mêmes types de rapports de manque de respect avec un chef de service ou de l'agglomération, ou un chef de service d'une administration. C'est possible. Il y a une ambiance qui est particulière, mais c'est pas la généralité, non. Bien évidemment.
Non, mais je disais tout à l'heure, vous êtes l'État. L'État, et quand on est en colère contre l'État, donc on est en colère contre vous, mais de la même manière, on a fait un téléphone sonne sur les pompiers il y a pas si longtemps, au fond, de la même manière. Le représentant de l'État est celui qui prend pour l'ensemble de l'État et pour tout le monde, Jean-Marc Bergère. C'est quelque chose que vous sentez? Est-ce que vous avez senti une accélération, une différence dans la manière dont vous pouviez être vu et traité dans votre commune?
Oui, effectivement, oui, c'est quelque chose enfin moi je l'ai ressenti en tout cas depuis 2014, où c'est qu'on a des prises de position qui sont assez fortes, voire violentes dans certains cas. Heureusement, c'est pas la majorité des cas, c'est du 80-20, hein, donc 20% de gens qui sont très très demandeurs, avec même s'ils ont, ils savent que la réponse va être non, d'abord ils vous agressent et après on discute. Après il y a le besoin aussi, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est l'immédiateté de la réponse, hein. Oui, c'est-à-dire qu'on arrive au guichet de la mairie, il faut avoir la réponse tout de suite, hein, là maintenant. Donc nous on est petite commune, on n'a pas de gros services pour pouvoir donner des réponses dans l'immédiateté sur l'urbanisme, sur tout un tas de choses. Quand on ne sait pas, on cherche. On donne la réponse a posteriori, mais souvent ça crée de la frustration. Donc un des challenges, effectivement, moi c'est ma politique, c'est faire en sorte que même si la personne n'a pas eu une réponse favorable en sortant de la mairie, il faut qu'il sorte avec le sourire, parce qu'il sait qu'il va avoir quelque chose au bout.
Et la certitude que vous êtes en train de chercher, que vous lui donnerez cette
exactement,
réponse.
Exactement. Et c'est vrai que des fois ça peut créer de la frustration chez les administrés, et c'est peut-être la génération réseaux sociaux, etc. Je ne sais pas si ça relève de ça. Mais en tout cas, ça y ressemble fortement.
Ça y ressemble effectivement, mais on apprend à dire non. Je ne sais pas. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce monde où on doit tout savoir? Il faudrait qu'on ait un bac plus 50 pour te comprendre. Ce n'est pas possible. Donc non, je ne sais pas, je vais chercher, je vais vous répondre, revenez me voir. Effectivement, mais c'est l'immédiateté qu'on le ressent. Voilà.
Olivier, bonsoir. Olivier, bonsoir. Olivier, bonsoir, allez-y.
Oui, alors moi je voulais juste intervenir, mais c'est vraiment, c'était au début du débat, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas confondre la fonction de maire et le métier. Le maire, c'est pas un métier, c'est une fonction. Et il y a vraiment une grosse différence pour moi entre la fonction et le métier. Et donc c'est là où je voudrais qu'on revienne un petit peu, au démarrage, enfin pas aux prémices, mais comment on pourrait dire, au début de la fonction, quoi. C'est un maire, c'est une fonction, c'est pas un métier. Donc,
vous voulez dire que s'il reste dans sa fonction, donc s'il est élu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, ça devient un métier et c'est là que ça devient un problème?
Exactement. D'accord. Il y a ça, et deuxièmement, comme c'est une fonction, ce que disait votre interlocuteur précédent, c'est que le maire peut pas tout connaître. Effectivement, vu que c'est une fonction, c'est pas un métier. Il n'y a pas d'école de maire.
Ah ben, et dommage, peut-être. Mais...
peut-être.
Il faut de la formation.
En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas.
Merci.
Donc, effectivement, c'est là-dessus que je voudrais insister, moi.
Merci beaucoup, Olivier. J'aime bien cette différenciation, Dominique Chiappuis, entre métier et fonction, qui sont deux choses très différentes.
C'est absolument vrai. C'est une fonction. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas tout savoir. Et puis, ce qui est vraiment important, et là, je crois que dans la nouvelle loi, ils l'ont pris en considération, il faut une formation, au moins sur les grands chapitres qui nous posent souci au quotidien, hein. Les pouvoirs de police certes, mais aussi l'urbanisme et tout l'environnement, hein, qui devient un sujet très très important.
Ça fait partie des...
Et donc les normes, c'est ça que vous voulez dire en fait.
Ça fait partie des grandes lignes en fait, de construction du futur projet de loi, à savoir un bel axe sur la formation.
Voilà.
La formation tout au long de la vie d'un maire, comme on peut avoir de la formation continue quand on a un métier, là, pour le coup, mais aussi sur des caractéristiques très précises. Par exemple, être officier de police judiciaire, effectivement, on endosse l'habit en étant élu, mais finalement, on ne sait rien faire. Donc c'est après par les formations où on va monter en compétences. Mais ça s'apprend et il faut pouvoir. On est très inégaux en France justement sur l'accès à la formation quand on est des élus. Moi je suis sur un département où c'est le conseil départemental qui nous forme. Avec différents types de formations, avec un gros catalogue. Il y a d'autres départements où c'est vraiment à la marge et c'est très compliqué.
Alors tiens, il y a aussi des gens en colère qui nous écoutent. Je n'ai aucune confiance envers les maires, nous dit Serge, car leur nombre de mandats est illimité, abus d'autorité, délit de favoritisme, car une position de toute puissance pour beaucoup. Voilà, l'image que vous pouvez avoir, c'est peut-être pas forcément le cas dans des communes qui sont de vos tailles, Dominique Chapuis.
Oui, je pense qu'il parle pas de ruralité. Voilà. Parce que effectivement, il y a une grande différence entre les maires de ruralité. Et, d'abord, nous ne sommes pas portés par des partis politiques. Nous ne sommes pas notre parti politique à nous. Ce sont nos communes et quels que soient nos conseils municipaux. Nous sommes tous dans cette démarche-là, au service des gens. Mais pour faire avancer les choses, pour dans un esprit citoyen, on parlait de formation aux maires ruraux là, de France. On met en place la formation avec des élus qui partent et qui vont accompagner les nouveaux élus. Mmh. Et ça, c'est très important parce qu'il y a tellement de petites choses qu'on ne connaît pas et qu'on a besoin d'apprendre. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui veulent rentrer dans le conseil municipal parce que, comme vient de dire monsieur, ça va pas durer à vie. Nous sommes bien d'accord. Je commence à les former et je vais lâcher la main pour qu'ils puissent reprendre la main, puisqu'il y a un âge, comme vient de dire monsieur, où ça s'arrête. Mais ne confondons pas les maires des grandes villes qui ont des services, qui ne font pas de la politique que nous faisons.
Oui. Et qui font de la politique, eux, alors que vous n'en faites pas au fond. En tout cas, la politique avec un grand P qui est la vôtre et la petite politique politicienne qui est parfois la leur aussi. Vous en parlez puisque vous disiez que vous formiez les autres. Cette crise des vocations, vous la sentez. C'est difficile de trouver des gens pour être au conseil municipal, par exemple, Jean-Marc Bergia ou pas?
Ça se trouve, mais effectivement, c'est compliqué parce que tout le monde a des activités professionnelles. Donc, c'est comment on se partage entre le boulot, la famille, les activités de loisirs, et puis aussi la commune. Parce que quand on y va pour 6 ans. Donc, il faut pas lâcher. Et effectivement, constituer une liste, pour moi, c'est 19 personnes. C'est pas évident parce que c'est pas simplement de mettre des noms sur une liste. Il faut aussi travailler une cohésion d'équipe parce que si on ne travaille pas ça, on tient pas les 6 ans, très clairement. Donc ça se construit pas à pas, il faut du temps, il y a des volontés, il y en a qui voient aussi les contraintes qui peuvent être importantes, notamment pour les adjoints et les délégués.
On donne des chiffres qui sont assez vertigineux de maires qui ont décidé de ne pas se représenter, voire qui sont démissionnaires d'ailleurs.
Mais sur les 50%, vous avez beaucoup de maires qui sont âgés et qui sont aussi en fin de mandat, qui ne souhaitent pas repartir parce que parce qu'ils estiment qu'ils n'ont plus l'âge à 70 ans de reprendre la mairie.
Vous disiez, Jean-Marc Bergia, de ce que j'ai lu, que après votre agression, c'était une affaire avec des gens du voyage, vous hésitiez, vous disiez du coup j'ai pas envie de repartir. Est-ce que vous avez réglé cette question ou pour l'instant vous savez pas en fait?
Non, je l'ai réglé, mais effectivement après l'agression on prend un coup sur la tête déjà.
C'est le coup au de dire propre.
Au sens propre, au sens figuré. Et c'est vrai que moi je me suis questionné, j'ai passé quelques jours où je me suis dit pourquoi remettre le pied là-dedans alors que j'avais pris la décision avant l'agression de repartir. Mais là ça m'a un petit peu séché et puis après je me suis dit non, c'est pas possible, tu peux pas mettre un genou à terre et laisser passer un truc pareil.
Et du coup, pourquoi vous y allez les jours où ça va pas? Alors là, pour le coup, c'est un coup sur la tête, c'est vraiment très grave, mais même quand il y a vraiment un moment où ça devient difficile, vous avez envie de prendre l'un de vos administrés pour taper sur l'autre, qu'est-ce qui vous fait rester? Qu'est-ce qui vous fait vous présenter à l'élection qui suivra?
Je pense les retours qu'on a des administrés, nous les retours on les vit en direct, c'est dans la rue, on croise quelqu'un, on va chercher le pain, on va regarder les bacs à fleurs pour voir si on nous a pas piqué les pétunias ou les géraniums. Voilà, et donc c'est ces retours en direct qui nous font tenir. Moi, d'autant plus après mon questionnement pour savoir si du coup j'ai retourné ou pas, c'est tous les messages de soutien que j'ai pu avoir de mes administrés et notamment des gens qui avec qui on partage pas fatalement les mêmes affinités et qui ont exprimé voilà une certaine satisfaction dans l'action qui avait été menée par la mairie. Oui, ça ce sont des choses qui sont importantes et comme le disait le monsieur lors de la première intervention, on dit plus les choses qui vont pas au maire et on dit assez peu les bonnes choses. Et c'est vrai que ces bonnes choses, quand on arrive à les capter, ben on les prend et on les encadre hein, parce que voilà, il y a besoin.
Dominique Rozoy, vous vous êtes posé cette question vous parfois ou pas? J'y vais pas, j'y retourne pas.
Oui, bien sûr.
Quand vous le pesez, le pour et le contre, pourquoi la balance du pour est plus importante?
La balance, c'est ce que tu viens de dire, c'est le sourire des enfants parce que vous avez fait un périscolaire qui leur convient, qui convient aux familles. C'est les associations nombreuses qui se montent et que vous pouvez accompagner. C'est le visage de votre commune quand vous arrivez à modifier tel endroit qui était moche et puis que vous allez avoir telle vigne ou telle ou d'autres choses. Enfin, nous sommes des bâtisseurs et des bâtisseurs ensemble. Il y a une équipe, c'est pas moi je pense pas que c'est moi toute seule qui fait les choses, jamais j'ai pensé ça. Si on n'est pas porté par les habitants avec des rendez-vous avec eux à discuter et accompagner des projets, on ne fait rien, mais c'est vraiment faisable et c'est ça qui est passionnant, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, c'est ce qui fait la balance par moment.
On a la chance de pouvoir faire participer avec nos échelons de communes, les administrés. Moi, je les ai fait rentrer dans des commissions municipales, on fait des cafés citoyens, on fait les réunions de quartier, régulièrement. C'est important parce que ça nous permet aussi de sortir le nez du guidon et d'être en direct, quoi. On n'est pas à se dire 3 ans plus tard, ah oui, finalement, on n'a pas pris les bonnes décisions.
Vous, Jean-Marc Berger, j'avais fait illusion tout à l'heure, je vous pose la question parce qu'on a une question d'un auditeur dans ce sens-là qui nous demande quelles sont les possibilités d'action face à l'installation sauvage de gens du voyage, par exemple, pour un maire. Vous, c'est la raison pour laquelle il y avait eu un incident grave, mais ce qu'on vous donne de plus désormais aujourd'hui, est-ce que ça vous aidera en cas de conflit de ce même genre?
Alors la volonté du gouvernement, en tout cas, de la réunion de cet après-midi, c'est effectivement de donner plus de moyens sur le terrain. Alors plus de moyens, c'est pas mettre 50 casernes de militaires. Hein. Plus de moyens, c'est déjà dans l'exécution des expulsions, dans l'exécution de tout ce qui va être procédural, c'est d'aller au bout des choses. Parce que, in fine, ce que l'on voit sur le terrain, c'est on fait des démarches administratives, on fait des demandes d'expulsion, mais ça s'arrête là. Le but du jeu, c'est si on a un campement illégal sur une commune, ben, s'il est illégal, il doit sortir de là, clairement. Donc, on doit aller au bout de la démarche et les préfets vont être revus là-dessus pour qu'il y ait une harmonisation sur les procédures qui sont faites au niveau national.
Antoine, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, Antoine.
J'avais une question. Moi, je vois que dans ma région, en Maine-et-Loire-Vendée, il y a beaucoup de communes nouvelles qui se créent. Donc, on rassemble 10 communes, 20 communes sous une seule commune avec un seul maire. Et des maires délégués, mais je trouve que ça éloigne le maire des administrés. Et puis les maires délégués n'ont plus vraiment, pour moi, de compétences, enfin de pouvoir et de compétences. Et puis, ils ont fait ça, pour, à mon avis, pour garder leurs subventions, à ce que j'ai entendu dire, les dotations. Mais en fait, moi, je trouve que derrière, les maires, voilà, ils sont éloignés. Comme disait votre interlocuteur tout à l'heure, je pense que aux prochaines élections, par exemple, ça va être... comme on ne connaît pas les maires... Derrière, ça va être tous des partis qui vont se présenter. Enfin, je sais pas trop, mais je trouve que les maires, je sais pas si vos interlocuteurs connaissent les communes nouvelles, mais je vois 10-15 communes rassemblées sur une seule collectivité. Bon, il y avait déjà les comités de communes, je pense que ça suffisait. Et maintenant, les communes nouvelles, je trouve que ça fait un peu un échelon encore en plus. Donc voilà mes questions.
Merci beaucoup Antoine pour cette question. Dominique Chapuis pour lui répondre. Il a raison, il y a beaucoup de regroupements. Et il a raison aussi, d'ailleurs, c'est aussi une question de dotation, parce que au fond, à certains égards, on est plus fort quand on est plusieurs, mais on a perdu le maire de vue, en fait.
Alors, je ne suis pas toujours convaincue. Les chiffres sont clairs. Hein. Les regroupements importants ont plus créé des nouveaux postes que permis de faire des économies. Mmh. La mutualisation, oui, la mutualisation dans les agglomérations, dans les communautés de communes, ça a permis de faire quelques économies, mais
cachez votre joie. Hein.
Voilà, c'est ça. Vous me voyez arriver. ben oui, parce que en plus, comme vient de le dire monsieur, il parlait des communes nouvelles, mais c'est valable pour les grosses agglomérations. Vous êtes éloigné, même quand vous êtes maire, ouais, et pas maire délégué, vous êtes quand même éloigné de la gouvernance parce que vous êtes peu nombreux en représentation. Vous pouvez pas être à toutes les commissions. Enfin, c'est compliqué. Ce qui fait que les décisions sont prises plus souvent par les chefs de service dans les gros, les grosses agglomérations que par des élus. Et ça, c'est vraiment très ennuyeux. Et pour revenir aux communes nouvelles, je crois que dans le projet de loi a été demandé aussi par les maires ruraux de France que la population soit concertée et puisse voter. Parce que monsieur a raison, les maires délégués, alors moi j'en viens, puisque ma commune était associée à une ville voisine et il y a 10 ans, nous avons réussi à nous dissocier grâce à la population. Nous sommes battus pour cela et nous avons eu raison, puisque ça permet quand même, au moins dans la grosse interco, d'avoir un représentant, un seul. Ce qui est bien peu.
C'est aussi des choses qu'on va vous donner, d'après ce que j'ai compris moi, rompre l'intercommunalité, pouvoir rentrer sortir en fait. C'est pas une histoire de Brexit, il y a pas d'article 50 là-dedans.
Alors on peut a priori commencer à travailler sur certaines compétences, mais bon, ça va être compliqué. Mais déjà le fait d'avoir un peu assoupli cet aspect de la loi NOTRe, ça nous permettra peut-être de pouvoir être un peu mieux représenté et puis surtout travailler sur la gouvernance. Le souci, c'est que moi je discute beaucoup en tant que président des maires ruraux de Lyon avec des présidents de petites intercos. Ça se passe très bien parce que ils sont entre eux de petites communes, ils ont à peu près les mêmes représentations. Il y a pas de bagarre ni politicienne ni autre. Et donc là ça marche. Mais monsieur a raison, hein, ouais. Mettre des maires délégués sur des grosses communes nouvelles où il y en a 3, 4, 5.
Et on finira par faire un vrai vote politique, ce qui est pas ce qu'on fait à l'échelle de vos communes.
Ce qu'on fait absolument pas dans nos communes.
Lionel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, Lionel.
Bon, merci encore pour la qualité de vos émissions. Je me permets de faire un petit témoignage, une question à poser à vos invités. Je suis moi-même le fils d'un maire qui est décédé après deux mandats et demi, trois mandats et d'épuisement, tellement la charge était très lourde, une crise cardiaque, bon, des charges de travail hebdomadaires énormes. Et en réfléchissant à la vie de mon papa, je me suis questionné sur la charge qui portait sur les maires locaux. Et je me suis aperçu, et j'aimerais avoir le sentiment de vos invités, que les maires étaient une sorte d'aberration à l'échelle mondiale en France, dans le sens où ils concentrent les moyens et les pouvoirs de justice, d'exécutif et législatif, ce qui signifie que peut-être pour abaisser la charge et la tension sur ces personnes-là, la distribution du pouvoir au niveau local pourrait aussi être une porte de sortie, parce que moi j'ai constaté dans ma vie familiale que mon papa effectivement dormait assez peu, faisait un travail de fou, et en fait l'épuisement était aussi une conséquence du fait que quand on dialogue avec nos collègues à l'échelle européenne, ne comprennent même pas comment est-ce qu'on peut concentrer les moyens, les pouvoirs exécutifs, législatifs et le reste en une seule personne. Donc, qu'en pensent vos invités?
Merci beaucoup. Merci. Et c'est vrai que les 36 000 communes, c'est une vraie spécificité qui est la nôtre. Oui, un peu moins, qui est aujourd'hui la nôtre. Mais qu'est-ce que vous dites, Jean-Marc Bergia, de la suggestion de Lionel? Essayez de partager les responsabilités, au fond.
Le partage des responsabilités, on le vit effectivement au quotidien. Après, il faut pas, et on l'a encore rappelé cet après-midi, c'est vraiment une question d'actualité au ministre, c'est-à-dire qu'on ne veut pas récupérer des choses de l'État et que l'État se défausse sur nous, très clairement. Donc c'est vraiment un partage, c'est-à-dire que chacun doit faire le job à son niveau, mais on ne va pas prendre encore des choses complémentaires. Qu'on puisse faire notre travail d'officier de police judiciaire, oui, par contre, qu'on soit l'unique interlocuteur d'officier de police judiciaire, là, la réponse est non. C'est pas du tout la volonté de l'État. La difficulté que l'on rencontre effectivement sur l'épuisement, comme vous le citez très très justement, c'est que il y a quand même 30 000 maires avec une population de moins de 5 000 habitants en France. Ce sont ces 30 000 maires qui ont la main dans le cambouis et qui sûrement ont vécu un moment donné de leur vie, comme nous tous, je pense, un moment donné où on est dans le rouge très clairement, parce que on dort peu, parce que il faut tout cumuler, la vie familiale, la vie professionnelle et la vie d'élu.
Brigitte, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, Brigitte.
Oui, j'entends beaucoup parler, comme tout le monde, du découragement des maires. Je voulais savoir si on pouvait craindre qu'un jour, dans une commune, il n'y ait plus de candidats. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passerait ?
Merci pour votre question, Brigitte. Dominique Chapuis, est-ce que c'est un cas d'école où ça s'est déjà produit ? Moi, je me souviens d'avoir entendu des histoires comme ça.
Oui, donc après, c'est le préfet qui organise la gestion de la commune, le temps qu'il y ait des réélections, qu'ils aillent chercher du monde.
Le temps qu'on aille trouver quelqu'un par le col pour que enfin il soit. On peut pas confier rassurez-moi, on peut pas confier une ville, un village à son voisin, à la ville voisine, parce qu'on trouve personne, si.
Non, mais le risque effectivement, c'est que ça devienne, comme le disait l'auditeur précédent, que cette commune soit une commune nouvelle avec une autre commune, et puis qu'on s'écarte tous les deux. Nous sommes favorable au maintien des maires parce que nous sommes à proximité, parce que on y croit, parce que on vit ça un peu comme un président d'association. Il faut les faire vivre, nos communes, et on sait très bien que si on ne fait pas cela, ce sera encore plus grave.
Oui, c'est ce qui nous porte, hein, d'ailleurs, parce que bon, à un moment donné, on y revient aussi, donc c'est que quelque part on doit s'y retrouver aussi, et c'est pour ça qu'on se bat pour nos associations,
et ça vaut la
pour
peine.
Nos administrés.
Les gens en valent la peine.
Il y a une question qui a disparu, mais je vais vous la reposer parce que je l'ai vue très rapidement. Un auditeur nous demandait pourquoi vous y êtes venu, vous. Est-ce que vous étiez engagé avant, au fond, et que c'est l'engagement naturel? Est-ce qu'il y a quelque part une vocation quand on est maire ou pas? Dominique Chapuis, vous avez senti l'appel?
Complètement par hasard.
bravo.
Faut dire les choses clairement.
En un mot, vous avez une vocation, Jean-Marc Bergia, ou pas?
Oh, sûrement, je sais pas. Moi, j'ai fait le milieu associatif et ensuite, oui, ça a été conseiller municipal et puis je suis parti sur un mandat de maire.
Merci à tous, merci pour vos nombreux appels. Portez-vous bien.